Tout le monde m'entend, ça va? Voilà. Pas trop frotté. Je suis très honoré d'avoir été invité devant la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne. Alors moi, je suis au Savoyard, j'habite Annecy. Donc vous voyez, c'est pas un trop long voyage. Puis en ce moment, comme il n'y a pas de neige, malheureusement, en pleine, la route est facile. Et je suis donc ravi de pouvoir vous parler d'un sujet malheureux qui est trop souvent dans l'actualité. Alors c'est l'actualité en plus ces derniers mois qui est spécialement sinistre. Comme vous le savez, l'actualité internationale et également les faits divers. Il n'y a pas de jour sans qu'un fait divers marquant ne soit évoqué. Et donc on va parler, si vous voulez, ensemble de ce sujet délicat qu'on connaît en France depuis longtemps, que tous les pays connaissent, il n'y a pas de spécificité française, des crimes non élucidés. Et vous dire quelle a été la démarche à laquelle j'ai participé pour essayer d'améliorer la façon dont la justice française traite ces affaires qui sont difficiles à résoudre, qui pour certaines ne seront même jamais résolues, malheureusement, quel que soit le progrès scientifique et les évolutions qu'on peut mener, un certain nombre d'assassins, criminels, meurtriers, violeurs, ont échappé à la justice. Et peut-être que dans un avenir plus ou moins long, on n'aura plus de cold case. C'est possible, mais ce n'est pas trop certain. Il faudra. Cela dit, qui sait ce que sera notre pays dans 80 ans, 50 ans, 30 ans? Donc il n'est pas très utile de spéculer là-dessus. Je dis toujours, si les 68ards avaient pensé qu'un jour Internet existerait, tout le monde aurait hurlé à l'époque pour dire qu'est-ce que c'est que ce Big Brother, il n'est pas question qu'on utilise, et aujourd'hui tout le monde vit avec Internet. Et donc qui peut dire ce qui se passera dans 40 ans sur différents plans, et notamment sur le plan scientifique et technologique, puisque vous le savez, c'est un peu la science et la technologie qui dictent nos pratiques, notre vie, pour l'enrichir, pour la rallonger, mais aussi peut-être en contrepartie l'encadrer, la normaliser, la surveiller, ce qui est un débat de fond, évidemment. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai une carrière longue de juge et de procureur, pénaliste, parce que dans la justice, il y a deux grandes branches, la justice judiciaire, parce qu'il y a une justice administrative. Parlons de la justice judiciaire qui est la plus connue. Il y a la justice civile, les affaires civiles, les divorces, les litiges entre particuliers, qui d'ailleurs est très importante au niveau activité. Et la justice pénale, celle dont on parle le plus, c'est celle qui met aux prises les citoyens, les gens, avec l'État et la justice en cas de commission d'infraction. Et c'est évidemment ça qui émeut beaucoup la population, puisque c'est celle qui fait des victimes et qui suscite toujours beaucoup d'émotions. Donc j'étais dans cet univers-là pendant toute ma carrière, et quand je vais dans des salons du livre, parce qu'il m'est arrivé d'écrire autre chose que des choses sur le crime, hein, je l'ai fait sur la montagne ou sur l'affaire du procès des miliciens du Grand Bornand. Quand je vais dans des salons, je suis toujours à côté d'auteurs de polars qui, à moins qu'ils aient été policiers, n'ont jamais vu un cadavre, n'ont jamais vu un criminel. Et ils font des polars, pour certains très, très bien, mais ils ne savent pas ce que c'est réellement qu'un crime. Moi, malheureusement, j'en ai rencontré beaucoup de criminels devant moi, et j'ai eu à aller très souvent sur ce qu'on appelle des scènes de crime. C'est-à-dire le moment où une personne est découverte morte. Alors il n'y a pas que des crimes de sang, hein, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, des accidents, etc. Et donc je sais ce que c'est qu'un crime, l'ambiance particulière qui règne dans ces moments-là, ça peut être sous la nuit, dans des endroits très particuliers. Et ça m'a permis d'avoir une expérience riche, multiple, parce que chaque affaire est particulière, pour montrer aussi de la complexité du phénomène humain et de quoi l'être humain est capable. Et vous le savez, à chaque fait divers un peu marquant, on dit « mais comment est-ce possible ?» de telles horreurs, de telles atrocités, etc. Donc forcément, au bout d'un certain temps, on prend du recul, on s'endurcit forcément. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que si chaque rencontre avec un corps humain percé de coups de couteau ou atteint par des balles vous plongeait dans la dépression, il vaut mieux changer de métier. C'est que, voilà, ça fait partie des réalités, comme un médecin qui peut aussi être confronté à la mort, hein, quand il intervient en milieu hospitalier ou autre, ou à domicile. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, peut-être d'ailleurs, que j'ai souhaité exprimer à travers différents livres, comme une forme d'exutoire, peut-être envie de décharger de ce genre, certaines choses. On m'a souvent posé la question, des journalistes m'ont souvent demandé, est-ce que la nuit, quand vous rentrez d'un déplacement sur un crime, est-ce que vous trouvez le sommeil ? Non, pas toujours. Alors oui, quelquefois, je dormais bien. Puis d'autres fois, avec des faits plus ou moins marquants, une ambiance. J'ai été pendant 5 ans à Marseille. Marseille et Saint-Jean-de-Maurienne, c'est un peu différent. Là-bas, la criminalité, elle est permanente. Elle est quotidienne, elle est très violente, vous le voyez bien avec les règlements de compte. Et je crois que l'année 2023 sera une année record, malheureusement, en règlements de compte. Moi, je suis allé, je crois que sur plus de 45 règlements de compte, une partie de ceux que j'ai vécu, j'allais pas toujours ou j'étais pas disponible à Marseille. Et c'était il y a déjà 10 ans, c'était entre 2008 et 2013, vous voyez. Et la situation ne change pas. Mais Marseille, c'est un peu une ville à part. Sur beaucoup, beaucoup de plans, c'est une ville pauvre, c'est un port, et qui a une tradition de criminalité assez ancienne, comme vous le savez. C'est même là qu'on a tué le dernier magistrat assassiné, le juge Michel, en 1981. Il y en a eu un autre à Lyon, le juge Renaud. Et tant mieux, il n'y en a pas eu d'autres. Donc c'est une ville de tous les dangers, une ville attachante, une ville repoussante, enfin, de tous les aspects. Et j'ai aussi connu toutes sortes de crimes et de faits de toute nature qui, au bout du compte, permettent d'avoir une approche, une connaissance concrète de cela, et pas uniquement juridique ou intellectuelle, mais une connaissance concrète un peu de ce qu'est le crime, et puis de la réaction possible de l'auteur des faits, ou du suspect. Alors quand je mets crime, on va beaucoup parler du crime de sang, hein, du meurtre, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres crimes que sont les viols. Évidemment, on en parle aussi beaucoup, ça peut être les viols incestueux, mais ça peut être les viols de rue, les viols de rencontre, mais il y a aussi les vols à main armée, qui est d'ailleurs tendance à disparaître, ce qu'on appelait les braquages, et qu'on ne braque plus de banque, mais on jugeait de temps en temps, et il arrive qu'on puisse juger en cour d'assises des auteurs de hold-up. Il y en a beaucoup moins. Maintenant, beaucoup sont dans le trafic de drogue, puisque c'est plus rémunérateur et moins dangereux, d'une certaine manière. Mais ce qui reste comme une constante, depuis que la France existe, que notre société existe, c'est le passage à l'acte criminel. Et je dis souvent que qu'est-ce qui distingue un meurtre conjugal commis en 2023 du même meurtre conjugal commis en 1623, 400 ans en arrière, rien. C'est-à-dire qu'il y a 400 ans, ou 300 ans, ou 200 ans, un mari, je dis souvent un mari, parce que malheureusement, c'est souvent l'homme qui tue. Alors l'homme tue sa femme pour pas qu'elle l'abandonne, et la femme tue son mari pour qu'il la laisse tranquille, si je voulais résumer. Mais malheureusement, c'est souvent l'homme, et finalement, ce qui pousse quelqu'un à cet acte, les sentiments n'ont pas changé. La jalousie, la colère, plein de choses, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, évidemment, c'est l'approche médicale, c'est la façon dont on peut traiter et sauver une personne si elle a été blessée. En 1623, un coup de couteau pouvait être mortel, hein, s'il y a une hémorragie. Aujourd'hui, si le SAMU intervient vite, à moins d'être touché en plein cœur, vous pouvez survivre. parce que la médecine a fait des progrès, etc., etc. Mais finalement, on est sur une constante. Il y a d'autres phénomènes criminels qui, eux, changent et qui sont variables selon les époques. Le terrorisme, aujourd'hui, il a évolué, même s'il existe depuis longtemps. On ne se souvient plus des anarchistes. Vous savez qu'on sévit en France à la fin du 19e siècle, début du 20e. La bande à Bono, qui était plutôt d'ailleurs des malfaiteurs, et Ravachol et beaucoup d'autres, c'était des terroristes violents. Ils ont tué beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup d'épisodes comme ça. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est terrorisme islamique, idéologique. Ça a évolué. Les choses ne sont pas les mêmes. Le banditisme aussi a évolué. Une époque ancienne, et je pense que la région ne devait pas être épargnée il y a quelques siècles, les bandits de grand chemin, les chauffeurs, voyez, ceux qui attaquaient les gens à domicile, qui leur faisaient griller les pieds, ça n'existe plus. Maintenant, il y a d'autres formes de banditisme. Voilà. Donc il y a des évolutions historiques. Ce qu'on n'a pas en matière de crimes ordinaires, comme je vous l'ai dit, finalement, ça n'a pas trop changé. On a toujours eu des crimes sexuels, et beaucoup n'étaient pas résolus il y a quelques siècles en arrière, puisqu'on n'avait pas de moyens. C'était un peu la rumeur publique qui dit on retrouvait une jeune fille violée, tuée, et je pense qu'il y en a eu dans la région, qui peut être l'auteur. On n'avait pas de moyens scientifiques, mais ça a toujours existé. Le crime crapuleux a toujours existé. On tue pour de l'argent. Et il y en avait même beaucoup plus en France, 19e, 18e siècle, qu'aujourd'hui. Les cambrioleurs, je pense surtout à des villes, des grandes villes, n'hésitaient pas, pour beaucoup d'entre eux, à tuer leurs victimes. On appelait ça les escarpes. C'est le terme du voleur qui rentre chez quelqu'un, souvent d'ailleurs des victimes plutôt pauvres, et puis on tue la vieille pour lui piquer ses sous. Et ça, c'était fréquent. Aujourd'hui, le crime crapuleux, il existe toujours, mais il est quand même beaucoup plus rare. Ce qui est plutôt un signe d'évolution positive d'une société qui est moins violente. On tue peu dans la rue, même s'il y aura toujours des faits qui se produiront, bien sûr. On a plutôt aujourd'hui à faire un phénomène de proximité. Les colères familiales, les violences sur les enfants, les différends de voisinage, les histoires de boîtes de nuit, de bars, qui à un moment peuvent amener à la mort d'une personne. L'affaire de Crépol, on en a parlé, mais des rixes. J'en ai connu beaucoup, des rixes mortels, où dès que des jeunes s'affrontent, souvent un peu chaud, parce qu'ils ont bu, et ben ça se termine par des coups de couteau. J'étais sur un procès d'un jeune qui a été tué à Mélan, près de Grenoble. La famille était effondrée pour une connerie, si vous me permettez l'expression, et ça s'est terminé par la mort d'un jeune, à l'extérieur de la discothèque. Et ça, on en connaît et on en connaîtra encore. Ce sont des actes pas prémédités ou par bêtise, parce qu'on a bu, parce qu'on a pris de la drogue, parce qu'on veut faire les cadors. Mille raisons qui amènent la mort d'une personne, et souvent les victimes sont des jeunes et les auteurs sont des jeunes. Donc vous voyez, on tue par passion, entre guillemets, on tue par goût du lucre, on tue par appétit sexuel, et voilà. Et après on peut tuer par colère. Je dis souvent d'ailleurs que le sentiment le plus dangereux que j'ai rencontré, et qui est un facteur de passage à l'acte criminel, le sentiment le plus dangereux, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire que vous tuez l'autre? Oui, la jalousie, ça renvoie beaucoup au passionnel, même si le mot crime passionnel, on l'utilise moins qu'aujourd'hui. Colère, bien sûr. Alors la colère, combien de gens ont ruiné leur vie et celle de leur victime sur un coup de colère. J'en ai connu. Mais les coups de colère, d'ailleurs, font suite, quelquefois, à d'autres aspects. Tout dépend si l'auteur et la victime sont en proximité ou c'est des gens qui ne se rencontrent pas. Mais on a vu des différends entre automobilistes, piétons. Ça termine par un coup de couteau. J'ai connu ça à Marseille. On ne laisse pas passer le piéton, on s'arrête, on s'invective. Hop, il y en a un qui sort un couteau et qui tue. C'est la colère, irréfléchie. Malheureusement, c'est un sentiment qui sera souvent à l'origine de violences graves, avec évidemment derrière la problématique de la détention ou du port d'un couteau. Si vous avez un couteau sur vous, la tentation, c'est de vous en servir. Et combien de gens ne seraient pas morts si leur agresseur n'avait pas eu la bêtise de se munir d'un couteau, etc. Alors, on fait la chasse aux gens qui portent des couteaux, mais difficile. Hein, de... Alors que le fait de se promener avec un couteau, c'est un délit, je vous l'indique. Hein. Sauf si vous êtes vigneron, vous allez à un moment avoir besoin d'une serpette, d'un truc professionnel, vous n'avez pas le droit de vous promener avec un Opinel sur vous. C'est un délit. Opinel étant une maison que vous connaissez. Voilà. Le port sans motif légitime d'une arme et d'un couteau. On faisait la chasse à Grenoble où à l'entrée du palais du 6, beaucoup de jeunes arrivaient avec des couteaux. On a trouvé des cutters, des trucs, des poignards. Ah ben c'est pour me défendre, hein, c'est pour mon casse-croûte, enfin bref. Et toutes ces situations peuvent amener un jour à un passage à l'acte, sous l'effet de la colère en général, pour montrer qu'on est solide. Le sentiment que je voulais évoquer, donc ceux que vous avez indiqués sont évidemment fréquents, c'est l'humiliation. L'humiliation. Combien j'ai eu de criminels et d'affaires où l'affaire s'est faite, le crime a été motivé par l'humiliation qu'a ressenti l'auteur. L'humiliation de la femme vis-à-vis du mari qui la maltraite à tout point de vue, l'humiliation du voisin avec son voisin qui le maltraite, qui l'invective, l'humiliation de l'employé vis-à-vis de l'employeur qui le maltraite. Ça, vous savez, c'est comme la cocotte minute. On gère, on digère, et on a tous vécu plus ou moins, ne serait-ce qu'à l'école. On a tous connu un professeur, un enseignant désagréable, violent, ou qui n'hésitait pas, ce qu'il ne ferait plus aujourd'hui, à se livrer à des actes humiliants sur les enfants. Aujourd'hui, ce serait plus compliqué. Et tout ça peut amener à des réactions extrêmement vives de l'humilier qui dit j'en ai, et qui paf, qui d'un coup va sous le. Parce qu'il y aura un mot blessant, il y aura un geste blessant. J'ai le souvenir d'une une de mes premières affaires à Rodez. C'est un département de l'Aveyron qui est plutôt tranquille, hein. C'est pas un département très. C'est rural et très violent. Dans un village, une dame s'était mariée par l'intermédiaire du chasseur français. Je pense si ça existe toujours. Vous savez, où il y avait les petites annonces matrimoniales. Il existe toujours le chasseur français ? D'accord. Et les annonces matrimoniales aussi ? Bon, parce que maintenant, avec Internet, bon. Et elle avait pas loin de 60 ans, et elle avait rencontré son mari par petites annonces via le chasseur français. Ce monsieur, c'est un paysan un peu plus âgé qu'elle. Du coin, ils étaient mariés, et au bout de quelques années, elle était une petite dame très pratiquante, elle allait à l'église tous les dimanches, etc. Lui, c'était un peu le paysan un peu rustre, on va dire, mais pas spécialement mal connu. Un jour, lui est en train de couper du bois dans la cave, il est le soir, elle l'appelle pour passer à table, dîner. Et il répond pas, bon, elle la rappelle, et puis au bout d'un moment, elle va voir à la cave, et elle voit en train de couper du bois, et dit, donc, ben, tu viens manger, tu me fais chier, lui répond son mari. Là, après certainement, et nous l'a dit, à des années d'humiliation, de maltraitance verbale, il n'y avait pas eu de violence physique à son endroit, mais elle était très maltraitée par son mari, qui la considérait comme moins que rien, enfin... Elle s'est emparée du coin en fer que son mari utilisait pour fendre le bois. Elle lui a défoncé la tête à coups de coin en fer. Et ensuite, et donc il est tombé sur le tas de bois. Elle a pris le tranchant de la hache. Elle l'a moitié décapité. Une petite dame, si vous la voyez, toute gentille, très pratiquante, hein, jamais fait parler d'elle, et qui a, sur une impulsion non préméditée, qui a, à travers cet acte, réglé des années de maltraitance psychologique. Oui. Et ça, j'en ai connu un certain nombre, et si vous suivez l'actualité, des coups de colère, des coups d'énervement, qui sont liés souvent à des choses antérieures. Un mal-être personnel, etc., qui fait qu'à un moment, ça part. Et ça part sur un mot, un geste, une attitude, et ça peut suffire. Combien de crimes ont été commis parce qu'un mot a été mal compris ou a été dit par la victime qu'elle n'aurait pas dû dire pour l'auteur. Voilà, donc le crime ordinaire, finalement, il n'a pas tellement changé. On tue moins aujourd'hui qu'avant, contrairement à ce qu'on peut penser. On tourne à environ 900, 950, entre 850 et 950 crimes de sang par an en France. Alors, il y a eu, je mets de côté les affaires de terrorisme, hein, qui faussent un peu les statistiques, il y a eu les attentats de Paris, l'attentat de Nice. Il y a 25 ans, 30 ans, on tuait 1500 personnes par an. Aujourd'hui, on a diminué. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les chaînes d'info continu qui, du matin au soir, vous bassinent avec ça. Donc le sentiment que la France est à feu et à sang. Alors que, statistiquement, alors que la population a augmenté, on est à 67 millions d'habitants, on tue moins, même si ça augmente légèrement ces derniers temps, on tue beaucoup moins qu'auparavant. Et c'est plutôt rassurant. Alors, on tue beaucoup moins en France qu'au Mexique, en Colombie, au Venezuela, en Amérique centrale, où là, aller à Haïti aujourd'hui, vous risquez votre peau quand vous descendez de l'aéroport, quoi. Il y a des gangs de tous les côtés, il n'y a plus d'État, et on peut vous attaquer, vous prendre en otage. La vie humaine, un peu d'importance. Et donc en France, la France est un village de haute montagne par rapport à ces pays-là, en termes statistiques. Mais évidemment, c'est toujours trop. La France est moins bon élève que le Japon, où les pays scandinaves ont tué moins. Le taux d'homicide par 100 000 habitants est plus faible, qui est à peu près de 1 pour 100 000, 1,2. Il est un peu plus bas dans les pays scandinaves. Et au Japon, qui est une société un peu très homogène, où on transgresse moins les choses, même s'il y a aussi des problèmes, puis il y a des suicides. Voilà, donc il faut toujours avoir une approche un peu historique, c'est pas inintéressant, et géographique. Essayer de se comparer. Vous savez, c'est l'adage, quand je me vois, je me désole. Quand je me compare, je me console. Bah, c'est un peu ça. Mais il faut le dire vite, parce que c'est ne pas audible, ce genre de propos, quand vous avez des victimes, des gens éplorés, qui vous disent, mais moi, vos comparaisons ne m'intéressent pas, je vis le drame de ma vie. Et voilà. Et donc, cette confrontation avec le crime, je l'ai pratiquée pendant longtemps, j'étais 10 ans jugé d'instruction. Et par la suite, comme procureur, j'étais souvent, donc, comme je vous l'ai dit, sur des scènes de crime, puisque celui qui intervient tout de suite, c'est le procureur et ses substituts. Le juge d'instruction, il interviendra après coup, hein, sans avoir à se déplacer, c'est pas son travail, c'est le procureur qui saisira un juge. Les premiers intervenants auprès des enquêteurs, c'est le procureur. Donc je suis allé à Bourg-en-Bresse, à Roanne, à Ajaccio, et à Ajaccio, je suis allé par exemple sur l'assassinat du préfet Erignac, 6 février 1998, vous voyez, un assassinat hors norme. Mais j'ai été sur des trucs, des meurtres entre clochards, des choses comme ça, où on peut toucher le sordide absolu. Parce que souvent, le meurtre se fait dans des milieux, on va dire, relativement modestes. Il y a des exceptions, il y a des crimes bourgeois. Vous savez, c'était les films de Claude Chabrol à une époque. Milieu bourgeois, il y en a. Mais très généralement, on se tue dans des milieux soit défavorisés, soit des milieux modestes. Parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a plus de pauvreté, il y a moins d'éducation, voilà, ce genre de choses. Globalement, moi j'étais beaucoup plus souvent dans des lieux pas jolis que dans des beaux appartements. Mais ça m'est arrivé. Je me souviens d'un type qui avait tué sa femme dans une belle maison près de Marseille, je crois que c'était à Aubagne. C'est un type, voilà, il y en a, bien sûr, parce qu'encore une fois, personne ne peut se croire épargné par ce genre de tentation. Hein. Même quelqu'un de très diplômé, de fortuné, il peut être un moment... Alors quand on est un peu plus dans ce niveau-là, là on peut préméditer un peu plus son geste, un peu plus calculer. Ce n'est pas forcément d'ailleurs ce qui permettra de les laisser impunis, mais voilà. Quand on est plus dans le calcul, la réflexion, ça peut concerner des gens qui ont un niveau intellectuel un peu plus élevé. Il y a toujours des exceptions à tout ça, hein, parce que même des gens, encore une fois, très modestes, peuvent aussi préméditer leurs gestes, leurs calculs. Voilà. On ne peut pas en tirer d'analyse absolue, mais évidemment, quand vous allez dans des familles où beaucoup d'enfants, pauvreté, promiscuité. Alors, on le voit, hein, ça peut être les faits incestueux, les enfants abusés, enfin, qui eux-mêmes reproduiront plus tard un certain nombre de choses. Je l'ai vécu, malheureusement. Si je vous dis, le crime bourgeois, on le rencontre, bien sûr, mais quand même beaucoup moins souvent. Et donc, quand on est dans cette confrontation avec le crime, on apprend à prendre de la distance et on doit faire un travail pour lequel on est rémunéré, c'est d'instruire un dossier, de déterminer les éléments du dossier, de faire en sorte de faire juger l'auteur des faits, celui ou celle qu'on pense être l'auteur des faits. C'est le boulot du juge d'instruction. Il y a deux situations possibles. Soit la personne qui a été interpellée dit « c'est bien moi l'auteur », donc l'affaire sera assez simple. Soit la personne mise en cause dira « ce n'est pas moi ». Pensez à l'affaire Jubilard, qui nie toujours les faits et qui va être néanmoins jugé. Et pensez à l'affaire Jonathan Daval, qui au début pleurait toutes les larmes de son corps sur les épaules de ses beaux-parents, et c'était bien lui qui avait tué sa femme. D'ailleurs, on ne s'arrête jamais trop aux apparences que présentent les proches. Parce que très souvent, comme je vous l'ai indiqué, les crimes sont commis par des proches, au sens large. Donc finalement, le premier suspect quand une personne est décédée, ça peut être le conjoint, les frères et sœurs, les enfants, les oncles et tantes. C'est des cercles concentriques, puis après on ira un peu plus loin, les amis, les fréquentations, le voisinage, etc. Et on peut élargir la réflexion pour essayer d'identifier l'auteur des faits. Et donc le travail consiste à essayer de déterminer si on a bien affaire à une personne impliquée dans l'affaire. Le juge d'instruction ne jugera pas l'affaire, ce sera la cour d'assises qui décidera de la culpabilité de Monique Olivier, qui a été mise en examen, ça a duré très longtemps, comme vous le savez. Je crois que c'est en fin de semaine que le verdict va être prononcé. Il n'y a pas trop de débat, puisqu'elle ne conteste pas les faits, mais il arrive que, après plusieurs années d'instruction, l'accusé nie toujours les faits. C'est pas moi, je suis victime d'une erreur judiciaire. Voilà. Alors ça peut être vrai, mais c'est souvent faux. Un système de défense. Et donc, ce travail-là, la plupart du temps, il aboutit, puisque 80% des homicides sont résolus. C'est le chiffre depuis plusieurs années. 8 homicides sur 10 sont résolus. Et quand je parle de ces homicides résolus, je veux parler des homicides ordinaires. Je mets de côté les règlements de compte, qui sont les meurtres entre malfaiteurs, où là, c'est plus compliqué. Puisque le malfaiteur entre eux, ils se mettent en guet-apens, ils préméditent, le taux d'élucidation des règlements de compte est plus faible. Parce que le type, il s'est mis une cagoule, il va rien dire, on est dans un milieu criminogène spécifique. En revanche, le crime ordinaire, très fréquemment, l'auteur des faits, on l'identifie tout de suite. On sait qui c'est, il prend la fuite. Vous avez vu, le dernier, c'est le petit jeune de 15 ans, dans l'Isère, qui a tué ses parents, a mis le feu à la maison, on a trouvé très vite. Et vous voyez, c'est le fils. On a jugé, j'étais au procès à Chambéry, une affaire que vous devez connaître, l'affaire de Bozelle, l'affaire Jordan Leniza, un jeune qui habitait à Bozelle avec ses parents, milieu plutôt friqué, il a tué son père, ses deux jeunes frères, et tenté de tuer sa mère. Ça a été jugé il y a quelques années à Chambéry, j'étais au procès, j'y avais dû demander 30 ans, je crois qu'il a été condamné à 20, il me semble. Donc ce jeune, il est en prison, il avait 22 ans, 23 ans au moment des faits, il tue son père, son frère de 15 ans et le petit de 8 ans, et il tente de tuer sa mère pour différentes histoires. Donc, ces histoires-là, alors si c'est une tuerie familiale, exemple Dupont de Ligonnès, pas trop de doute, ou le faux docteur Roman. Mais quand on retrouve une personne décédée, est-ce que c'est un rôdeur, est-ce que c'est le mari, l'ex-mari, l'amant, le... Voilà. Et là, toutes les pistes sont possibles. Mais on envisage forcément les proches. Ce qui explique qu'on ne peut pas tout dire aux proches en début d'enquête. Même si les personnes sont effondrées, elles peuvent jouer la comédie, elles peuvent, exemple Jonathan Daval, donc on ne peut pas tout révéler sur l'enquête parce qu'on peut soupçonner un membre de la famille. Et c'est malheureusement fréquent que l'auteur des faits soit dans la proximité des victimes. Ce n'est pas forcément un membre de la famille, ça peut être des voisins. Ou un employé, ou un ex-employé qui vient se venger. Souvenez-vous de l'affaire Flactif. C'était un voisin qui était en lien avec la famille Flactif, qui a été massacré, le nommé David Otia, qui d'ailleurs, lors du début de l'enquête, on l'a vu, elle est passée à la télé, en train de se dire « c'est scandaleux, je ne comprends pas ». Et c'était lui le meurtrier qui agit avec d'autres. Donc voilà, tout ce travail peut être très simple si l'auteur est facilement identifiable, s'il se constitue prisonnier, si on l'arrête tout de suite, c'est souvent le cas, mais ça se complique dans un certain nombre d'hypothèses, puisque je parlais de 8 crimes sur 10 résolus, mais vous en avez donc 2 sur 10 qui, eux, ne le sont pas. Dans ces 2 sur 10, des règlements de compte. Donc vous voyez, ça peut faire 150, 170 affaires non résolues, parmi lesquelles il y a chaque année des règlements de compte, et il y a quand même des crimes qui ne sont pas de règlement de compte, qu'on n'arrive pas à solutionner, c'est-à-dire on n'arrive pas à identifier le ou les auteurs. Et ça, on est dans les cold cases. Alors le cold case, qu'est-ce que c'est ? Et moi, j'en ai malheureusement connu un certain nombre. C'est donc le crime de sang, crime de sexe, c'est-à-dire le viol, ou l'enlèvement et la séquestration. Derrière ça, il y a les disparitions. C'est pas autre chose, hein. Ce sont pas des vols, ce sont pas des cambriolades. Les cold cases, il faut que ce soit un crime non élucidé. Et maintenant, depuis une loi récente, non élucidée depuis 18 mois, qu'on peut qualifier de crime de cold case, et qui permet éventuellement, après 18 mois, si l'affaire n'est pas résolue, le dossier d'être transmis à un pôle spécialisé qui existe maintenant à Nanterre, près de Paris, depuis mars 2022, donc c'est récent. Vous avez maintenant des juges, des procureurs spécialisés à plein temps dans le traitement de ces crimes anciens. On est le seul pays du monde à avoir ça. Il faut le dire, parce qu'on se dénigre volontiers en France, mais de temps en temps, il est bon de rappeler qu'on peut faire aussi des choses pas mal. Alors, pour vous expliquer comment on est arrivé là, donc cette problématique du crime non résolu, si vous lisez des ouvrages, ça a toujours été, ça fait l'intérêt des journalistes, du public, la femme étranglée dans son château, la dame retrouvée tuée, Jack l'éventreur. Il y a toujours eu cette fascination et cet intérêt. Et donc ces affaires-là, on sait qu'on peut avoir du mal à les solutionner et que le temps passe, et que le temps qui passe joue en faveur de l'auteur des faits. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de criminels s'emploient à faire disparaître le corps de la victime, de leur victime, pour ne pas être identifié. Nordal Lelandais. J'étais donc à son procès l'année dernière, c'était mon dernier procès qui s'est clôturé en février 2022. J'avais demandé jusque-là 3 ou 4 fois réclusion criminelle à perpétuité pour des procès antérieurs, et c'était la dernière fois que je demandais à perpétuité. Nordal Hollandais, qui avait été jugé à Chambéry pour le meurtre du caporal Noyer, et qui est jugé donc l'année dernière pour l'enlèvement, le meurtre de la petite Maëlys. On est sur des affaires qui auraient pu être des cold cases s'il n'avait pas commis une erreur, ce garçon. C'est notamment de ne pas avoir détruit son véhicule Audi qui a servi à transporter et le caporal Noyer quelques mois auparavant et plus tard la petite Maëlys. Parce que l'erreur, et pourtant il avait essayé de nettoyer à fond le coffre de son véhicule, ce qui d'ailleurs l'avait désigné comme suspect, passé autant de temps avec des produits chimiques pour nettoyer l'intérieur de sa voiture et expliquer qu'il voulait la vendre. Bref, en fait, les enquêteurs et les spécialistes de la gendarmerie ont fait un beau travail. Sous le tapis de sol du coffre arrière, ils ont trouvé une micro-trace de sang qui avait échappé au nettoyage de Nordal Hollandais, qui était le sang de la petite Maëlys. Et donc, ça ruinait toutes ces explications antérieures qui disait que dans la soirée du mariage, la petite avait joué, était montée dans sa voiture, elle était ressortie, pour ça qu'on avait trouvé son ADN sur le volant. Mais là, si on trouve une micro-trace de sang dans le coffre arrière, c'est que là, il y avait autre chose. Et là, il a reconnu l'avoir enlevé, et ensuite lui avoir donné un coup mortel, etc., et s'est débarrassé du corps. Et ça aurait pu être des affaires non élucidées. Et aujourd'hui, donc c'est des affaires de 2017, 6 ans après, on saurait encore à dire « mais qu'est devenu le caporal Noyer ? Qu'est devenu la petite Maëlys ? Qu'est devenu Cécile Valin, que vous connaissez ? Que sont devenus les disparus du fort de Tamiers, etc. etc. » Et malheureusement, ce n'est que lorsqu'on retrouve, si on le retrouve, le corps, enfin, ou les restes humains, qu'on peut d'abord dire... C'est pas toujours le cas, mais dire si c'est bien une personne recherchée, parce que c'est pas toujours facile d'identifier des restes humains, et puis de savoir de quoi la personne est morte. Pas simple, la petite Maëlys, on a retrouvé une fracture de la mandibule, parce qu'elle s'est pris un grand coup dans le visage, puisqu'on a retrouvé son crâne, donc on a vu ça. Mais imaginez, c'était 6 mois après les faits, on retrouve le corps, imaginez que le temps soit écoulé, peut-être que le crâne disparaît, parce que vous savez qu'un corps se dégrade très vite, et que les animaux sauvages peuvent ensuite disperser les restes. Si on n'avait pas retrouvé le crâne, on aurait retrouvé des ossements d'une petite fille, on aurait sans doute fait le rapprochement avec Maëlys, mais on aurait eu du mal à savoir de quoi elle était morte. Si vous avez une strangulation des coups de couteau, ça disparaît. Il n'y a que si vous avez un projectile dans le crâne, on peut dire, là, il y a une mort un peu particulière. Donc, il y a cette situation qui fait qu'on aurait pu ne jamais retrouver les restes de ces deux victimes. Et aujourd'hui, on serait encore allé chercher. Et peut-être, d'ailleurs, que Nordal-Lelandais coulerait encore des jours tranquilles. On l'aurait fortement soupçonné, puisqu'il était présent lors de la fête. On l'a vu jouer avec la petite. On l'aurait sans doute largement soupçonné, mais on n'aurait peut-être pas eu les preuves absolues pour le faire condamner, sachant que c'est un individu psychopathe qui n'a jamais reconnu spontanément les faits et qui n'aurait jamais révélé être l'auteur si on ne lui avait pas mis sous le nez quelque chose de tangible. Vous voyez, ça peut tenir à peu de choses, un cold case. Il faut de la chance, bien sûr, il faut des erreurs de l'auteur, et il faut aussi un grand travail scientifique qu'aujourd'hui la science nous permet de faire, hein, quand ce qu'on appelle le gel d'une scène de crime. C'est essayer, quand c'est possible, c'est pas toujours évident, j'ai eu des crimes en pleine rue, l'assassinat du préfet Rignac, ça se passe en pleine rue, vous avez le long d'habitations, vous avez des gens au-dessus, c'est difficile de geler une scène de crime. Si vous retrouvez un corps en pleine forêt, c'est plus facile, dans un endroit dégagé, mais quand c'est dans la rue, où il y a du passage, c'est plus compliqué, vous pouvez pas laisser comme ça pendant des heures la situation en l'état. Donc, on est dans des configurations qui font que on peut se retrouver avec des difficultés. Alors, on y met maintenant des moyens scientifiques, des moyens techniques. Vous avez les gens en blanc, les policiers, les gendarmes, qui ont beaucoup de moyens de recherche. Hein. C'est plus seulement avec un petit pinceau. Ils ont des lasers, ils ont des tas de choses, des drones qui permettent. Mais vous avez quelquefois des complexités. Exemple, la tuerie de Chevaline. On reste toujours dans la région. Gros déploiement de forces des gendarmes. Et aujourd'hui, 11 ans après, c'est toujours l'énigme. Et le dossier est parti au pôle de Nanterre. Donc, même le déploiement de moyens technologiques, scientifiques, la science ne permet pas, malgré tout, de résoudre toutes les affaires. Et on s'est retrouvé dans cette problématique. Et pour l'avoir vécu, parce que quand j'ai quitté mon poste à Lyon, comme juge d'instruction, pour être procureur, j'ai laissé derrière moi 10 affaires de crimes de sang à Lyon. Toutes sortes de crimes, hein, pas de règlement de compte, une jeune fille violée, tuée à la Croix-Rousse, etc. Mais j'ai quitté mes fonctions au moment où l'ADN commençait à apparaître, enfin, commençait à être utilisé. Sur les 10 affaires que je vous indique, je pense que j'en aurais résolu au moins les 3/4, grâce à l'ADN. On avait notamment un type retrouvé étranglé dans un foyer de travailleurs, étranglé dans sa chambre. Moi, j'avais reclôturé le dossier, on n'avait trouvé aucune trace. Aujourd'hui, on aurait peut-être sans doute trouvé l'ADN de l'auteur. Mais à l'époque, on ne connaissait pas. On ne connaissait que le groupe sanguin, A, B, B+, bon, et les empreintes digitales. Mais les empreintes digitales, vous n'en avez pas partout. Hein. Alors, peut-être pour les cambriolages, etc. Petite parenthèse, des jumeaux parfaits ont le même ADN. En revanche, ils n'ont pas les mêmes empreintes papillaires, les mêmes empreintes digitales. C'est ça qui est. Chaque être humain a des empreintes digitales spécifiques, alors que l'ADN des jumeaux homozygotes ont le même ADN. Comme quoi, les empreintes, s'il y en a, et maintenant on peut les révéler de façon plus scientifique, on ne doit pas non plus considérer que c'est du passé, les empreintes, ça existe toujours. Plutôt pour, encore une fois, pour des délits d'atteinte aux biens, où les auteurs, il y en a qui mettent des gants, mais qui peuvent laisser des traces. Et aujourd'hui, on arrive à les identifier plus facilement. Donc il y a des affaires comme ça, moi je n'ai pas pu les résoudre, donc ça m'avait un peu travaillé, et dans les autres postes que j'ai faits, comme procureur, j'ai essayé par la suite, j'ai participé à une commission sur les tueurs en série au ministère de la Justice. Quand j'étais nommé à Marseille, on avait la chance d'avoir une greffière qui tenait un listing de toutes les affaires criminelles non élucidées depuis des années sur Marseille. Et donc j'ai monté une petite cellule cold case, c'était en 2008, avec un collègue pour essayer de travailler sur d'exhumer des affaires qui avaient été classées, crimes non résolus, et de les rouvrir pour voir si on ne pouvait pas les analyser sous l'angle ADN. Parce qu'il y a des affaires qui avaient été clôturées alors que l'ADN faisait ses débuts. Et c'est ainsi qu'on a pu identifier de l'ADN, c'est ce que laisse l'être humain. Voilà, vous voyez sur cette tablette, là, il y a 15 000 ADN, à mon avis. S'il y a un crime dans cette salle, monsieur Genelliti aura peut-être des comptes à rendre, mais on dira, mais oui, mais il y a d'autres utilisateurs, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui a changé la donne et qui a permis de réexaminer, et ce qu'on fait encore aujourd'hui, des affaires qui ont été clôturées il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, avec évidemment une exigence que vous comprenez tout de suite, c'est il faut avoir conservé ce qu'on appelle les pièces à conviction, qu'on appelle également les scellés, c'est-à-dire les objets retrouvés à l'endroit où le crime s'est produit, alors les vêtements de la victime, si on en a une, des objets où il y a peut-être un ADN qui peut être un jour révélé. Aujourd'hui, les laboratoires biologie arrivent à partir de quelques cellules humaines à mettre en évidence cet ADN qui est une forme d'empreinte génétique. Alors qu'il y a 20-30 ans, il fallait beaucoup plus de matériaux biologiques pour identifier un ADN. Aujourd'hui, avec quelques cellules, on arrive à identifier la personne. L'ADN a une vertu, c'est qu'il est très résistant. Le tout, c'est qu'il soit conservé, que l'objet support, je ne sais pas, une bouteille d'eau, là je laisse mon ADN. Si je bois, je laisse là-dessus. Et 30 ans après, si cette bouteille est bien conservée, on peut toujours trouver mon ADN. Mais vous voyez le problème, c'est que dans le passé, tout ça, on a détruit. On a beaucoup détruit d'objets dont on pensait qu'ils étaient plus utiles. L'affaire était clôturée. Il faut faire de la place dans les sous-sols des palais de justice. Donc on a beaucoup détruit, sans penser qu'un jour, ce serait peut-être utile. Et donc, il faut aussi penser qu'aujourd'hui, peut-être que l'ADN n'est pas encore jusqu'au bout, il est même pas du tout à la fin de son évolution, peut-être que dans 20 ans, ce qu'on ne peut pas mettre en évidence aujourd'hui, on arrivera à le faire. Avec une condition, c'est qu'on ait bien conservé cette bouteille. Et beaucoup d'affaires, malheureusement, ne pourront jamais être résolues parce que on avait peut-être de quoi confondre l'auteur, mais le support a disparu. Et si vous avez un suspect et vous allez voir le monsieur vous met en garde à vue parce qu'on vous soupçonne d'avoir tué Madame X il y a 30 ans, à moins que le gars ait envie de soulager sa conscience et de vous dire ben oui, c'est bien moi, il y a une très grande chance qu'il vous dise je suis innocent. Mais si vous lui dites, monsieur, comment vous expliquez qu'on trouve votre ADN sur le pantalon de votre victime ? On va juger, je pense, l'année prochaine, l'affaire Marinescu à Grenoble, qui s'est produite en 1993. C'est une femme et sa fillette de 12 ans qui ont été tuées sauvagement chez elle, près de Grenoble. Et des années plus tard, il y a maintenant 3 ans, je pense, alors qu'il avait été soupçonné dans un premier temps, le mari a été mis en cause, qui maintenant a plus de 70 ans, d'origine roumaine, et qui avait une forme d'alibi à l'époque. Aujourd'hui, après une longue enquête, on trouve un ADN, et vous en entendrez parler dans les médias, je pense, quand le procès aura lieu à Grenoble, on retrouve le sperme du mari sur, je crois, le pantalon de sa fille. C'est-à-dire qu'on pense qu'il a violé sa gamine, il la tue et il tue sa femme. Vous voyez le truc, ça veut dire derrière perpète, quoi. Il conteste. Il ne savait plus trop ce que c'était. Il dit maintenant, non, bref, ça va être jugé. Je pense qu'il sera détenu, ce homme-là. Mais s'il n'y a pas cet élément-là... Et donc, pourquoi ? Parce qu'on est sur un élément tangible, un élément matériel qui permet d'éviter des aveux qui peuvent être à un moment insuffisants, rétractés. C'est ça qui est toujours intéressant. Malheureusement, l'ADN, on n'en a pas toujours. Ou il n'est pas exploitable, on ne le retrouve pas, il a été mal conservé. Toute cette évolution, moi, m'a fait donc proposer en 2018 au ministère de la Justice de réfléchir à une façon dont la justice pouvait traiter ces dossiers. Parce que le problème, c'est qu'un crime qui se commet dans la région, instruit à Chambéry, à Annecy, à Grenoble, au bout d'un moment, dossier, il n'avance plus. Les juges de Chambéry, Grenoble, Annecy sont pris par beaucoup d'autres affaires plus urgentes, et ces dossiers, on les laisse un peu de côté. Et on m'a confié la présidence donc, de cette commission, on a travaillé en plein Covid, d'ailleurs on a produit un rapport qu'on a déposé en mars 2021, dans lequel on préconise 25 mesures, dont celle de spécialiser des juges, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, a validé ça, ça a été voté par le Parlement, et depuis donc le 1er mars 2022, fonctionne donc à Nanterre ces juges spécialisés, qui ne traitent pas tous les cold cases de France, parce qu'ils en ont déjà une centaine d'affaires, ils ne pourront pas tout traiter, mais ils traitent beaucoup d'affaires importantes. Cécile Valin, les disparus de l'Isère, l'affaire de Chevaline, l'affaire la petite Marion, Estelle Mouzin et Tiphaine Véron, une Française qui a disparu au Japon. Et l'intérêt, c'est que vous avez cette fois des juges et des procureurs dont tout le temps est consacré à ces vieilles affaires. Le procureur d'Albertville ou de Chambéry, il est pris par les trafics de stupes, les bagarres, les violences conjugales, ce qu'on appelle la délinquance du quotidien. Un peu comme les urgences à l'hôpital. Les urgentistes, ils sont là pour les affaires urgentes. Si c'est pas eux qui vont faire de la cardiologie, des choses comme ça. Et donc, même s'ils en ont le souhait, les juges, à un moment, n'arrivent pas à traiter ces dossiers faute de temps, parce qu'ils ont beaucoup d'autres affaires. Il y a des dossiers qui peuvent prendre beaucoup de temps. Quand Michael Schumacher a eu son accident, je peux vous dire que le procureur, il n'a pas atterri pendant plusieurs jours, hein, parce qu'il avait toute la presse nationale et internationale, l'accident de ski de Michael Schumacher, est-ce que c'est une collision ? Il ne fallait pas lui demander de se plonger dans une vieille affaire. Et c'est ça constamment. Ça peut être des violences urbaines, bref. Donc, fonctionne depuis 18 mois un pôle spécialisé qui commence à avoir des résultats avec des dossiers compliqués et qui va faire quelque chose, qui doit faire quelque chose que fait mal la justice, c'est d'avoir de l'écoute, de l'empathie vis-à-vis des familles. Les familles se plaignent, et vous en avez entendu dans des documentaires, dans des reportages, que la justice ne les reçoive pas, les ignore, ne les tiennent pas au courant ou classent l'affaire sans. C'est vrai, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et donc, le pôle de Nanterre, mais il faudrait aussi que petit à petit, dans les juridictions ordinaires, ce soit le cas, passe du temps avec les familles, les reçoit avec leur avocat, les écoute. Je pense que des familles comprendront que 30 ans après, 40 ans après, un dossier ne pourra pas être résolu, même s'il a été transmis à Nanterre. Le tout, c'est de l'expliquer aux proches. Je pense que les personnes accepteront si on le leur dit. Si on les méprise, si on les néglige, si on les envoie se balader en disant « votre affaire s'est pris comme une marque de presque d'inhumanité » dont les juges ne se rendent pas compte toujours d'ailleurs. Hein. C'est un peu comme le médecin à l'hôpital, et il va voir le chirurgien, les patients, puis il a là un peu désinvolte, il oublie la souffrance des malades, il passe un peu vite et on lui dit « mais il est trop froid ». Vous voyez, c'est un peu ça, parce qu'il y a une forme de banalisation. Et on peut espérer que cette prise de conscience que les médias relayent volontiers. Vous avez vu, il y a des émissions diverses et variées où les familles sont appelées à agir. Puis maintenant, avec Internet, avec des associations, avec les réseaux sociaux, elles parlent beaucoup plus qu'avant. Elles ont des exigences qu'on aurait nous aussi si on était concernés. Hein. Quand il vous arrive un drame, votre fille disparaît, votre fils, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est une fugue ? Est-ce que c'est un crime ? Et il y en a des milliers. Chaque année, il y a à peu près... On a du mal à chiffrer 70 000 personnes qui disparaissent. Certaines disparaissent plusieurs fois et reviennent. Des fugues. Très souvent, des jeunes disparaissent, mais ils reviennent. C'est comptabilisé. Mais il y a quand même, on parle de 1 000 personnes chaque année qui ne réapparaissent pas. Dans les 1 000, on ne sait pas si il y a des disparitions volontaires. Parce que vous avez le droit de disparaître. Si vous êtes majeur, vous pouvez dire « je me casse, je m'arrache, je m'en vais, je romps les ponts ». Et vous avez le droit de le faire, sans laisser votre adresse. Par contre, si vous laissez sans argent, si vous ne payez pas votre pension alimentaire, ça peut vous attirer des ennuis. Vous avez le droit de disparaître, c'est à la liberté, évidemment. Mais il y a aussi le suicide, malheureusement, plus souvent qu'on imagine, des gens dépressifs qui vont dans la nature, se pendent ou se jettent dans un ravin, et on ne retrouve pas les corps. Accident, dans la région, Évidemment, les régions de montagne, de bord de mer, il peut y avoir des décès naturels, des gens qui font un malaise et qui tombent dans un trou, on ne retrouve pas le corps. Et enfin, il y a des disparitions criminelles. Cécile Valin, vraisemblablement, toutes les disparitions d'une mauvaise rencontre avec un prédateur, avec un criminel qui peut être d'ailleurs un bon père de famille. Parce qu'il faut sortir de l'idée que le prédateur, alors il y a des tueurs en série comme Fourniret, Guy Georges, etc. Mais beaucoup de criminels peuvent être de bons pères de famille. Et on a des tas d'exemples. Et à un moment, des gens qui sont un peu insoupçonnables. François Vérov dit le grêlé, vous avez peut-être entendu parler de ça. Il s'est suicidé il y a 2 ans. Il a été impliqué pour des meurtres en 1986. Il avait tué une gamine à Paris. Il a tué un couple un peu après. Et ce garçon était gendarme, les gardes républicaines. Et par la suite, il y a eu des viols. Et il s'est rangé et il a vu que le filet, parce que le dossier a été rouvert, relancé, ADN, le filet s'est resserré sur lui, parce qu'à l'époque, les années 86, il n'y avait pas l'ADN, et il a préféré mettre fin à ses jours, voyant qu'il aurait des comptes à rendre, et il s'est suicidé. Il serait jugé aujourd'hui, alors il a peut-être commis d'autres crimes. Donc, c'était un monsieur qui était devenu presque un notable, hein, entre guillemets, ou un personnage respectable, le violeur de la Sambre. Il y a une série aussi, un type qui a sévi pendant 30 ans, qui a violé, et c'était plutôt un type... Donc méfions-nous des idées toutes faites que l'auteur d'un crime, ça peut être forcément le type bizarre dans le village, le marginal, le type avec des antécédents, ça peut être ça, mais ça peut être un David Otia, voisin de la famille Flactif, qui n'est pas un criminel jusque-là, ça peut être n'importe qui à un moment, sur une pulsion sexuelle, c'est ça peut-être le plus dangereux, la pulsion sexuelle, va à un moment s'égarer dans un acte terrible, notamment avec des enfants, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, et ces gens-là doivent être soupçonnés comme tout le monde. Vous voyez, s'il y avait un crime dans cette salle, imaginez qu'on retrouve un corps aux toilettes. On serait tous suspects. Hein? Forcément. Et même celui ou celle d'entre vous la plus honorable, la plus exempte de tout soupçon, pourrait être, on ne sait pas. Alors, j'aurais tendance à mettre un peu de côté les femmes. Hein? Mais pas complètement. Sachant que les femmes sont quand même largement moins meurtrières que les hommes. Alors, je dis toujours que les femmes, tu peux, mais tu bien. J'en ai connu. Quand j'étais juge d'instruction à Lyon, j'avais au même moment dans mon cabinet 4 affaires de crimes commis par des femmes. Une qui avait tué son père, l'autre qui avait tué son amant, l'autre avec son frère qui avait tué un ami. Enfin, 4 situations de femmes qui avaient toutes des profils plutôt banals et qui étaient des femmes meurtrières. Des choses étonnantes. Une qui avait 25 ans, elle faisait au moins 1,80 m. Elle vivait avec son père, elle couchait avec son père depuis au moins 10 ans. Jusqu'au jour où elle en a eu marre, elle l'a planté. Au début, c'était des abus, mais après, elle acceptait. Vous imaginez? Et c'était une fille costaud, hein, quand même. Et à un moment, je pense qu'il y a une accumulation de choses. Et ben, voilà. Donc, dans cette salle, je mettrai un peu de côté les dames, pour voir, hein, bon, en fonction aussi, tout simplement, de la nature du crime, hein. Quelle est la victime. Si c'est M. Genelletti, on peut peut-être penser qu'il peut avoir un ennemi au sein de la société, quelqu'un veut prendre sa place, c'est peut-être déjà... là. Mais on regardera du côté de sa vie personnelle, ou autre chose, sachant qu'il y a une piste qui est toujours possible, et il faut toujours l'imaginer, et c'est peut-être la plus difficile à admettre, c'est qu'on peut avoir des crimes gratuits. J'en ai connu. Dans mon bouquin, je cite 3 affaires de jeunes qui ont tué pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. C'était le cas à Chambéry, vous savez, dans le parc. Un jeune a tué un semi-marginal. L'idée, une espèce de froideur, on va tuer pour voir ce que ça fait. Le crime de rencontre, fortuit. Et ça, alors, si ça se passe ici, crime fortuit est moins évident. Mais si on retrouve M. Genelletti, mort sur un chemin, près d'ici, le soir, On pourra imaginer que ça peut être mille raisons, mais peut-être qu'il a rencontré, croisé la route d'un type schizophrène qui sort d'un hôpital psychiatrique, qui lui demande du feu, il dit « j'en ai pas, désolé », boum, coup de couteau. J'en ai connu des affaires comme ça. Vous voyez ? Sans qu'il y ait de relation antérieure entre la victime et l'auteur. Et ça, on part sur une hypothèse de cold case. Si l'auteur n'est pas arrêté tout de suite ou s'il laisse pas de traces, puisque rien dans la vie de M. Genelliti ne permettra d'identifier l'auteur. Il était là au mauvais moment, comme on dit, au mauvais endroit. Et donc, ce genre d'hypothèse, il faut toujours l'admettre. On va toujours chercher une explication, et c'est d'ailleurs le cas de Chevaline, vous voyez, le profil de la famille anglaise, le profil du cycliste. Il y a peut-être une piste. Et si c'était pas tout simplement un survivaliste, un amateur d'armes à feu qui fait du tir dans la forêt, qui à un moment pète les plombs, il voit arriver des gens, il tire comme ça. Vous voyez, sans qu'il y ait d'explication, ça aurait pu être n'importe quelle autre personne et c'est tombé sur eux. Donc vous voyez, la complexité, c'est d'abord d'envisager les pistes liées à la personne de la victime, mais d'imaginer aussi que ça peut être un crime de rencontre. L'ancien ministre savoyard, d'ailleurs Joseph Fontanet, qui a été tué à Paris en 1980, je crois, dans la rue, dans le 16e arrondissement, on n'a jamais vraiment identifié les auteurs, et il semblerait qu'il était victime de jeunes en voiture qui ont voulu faire un carton sur un passant. Et c'était lui. Donc vous imaginez, un ministre ou un ancien ministre battu, imaginez que ça peut être un crime gratuit, c'est presque inimaginable. Et pourtant, c'est possible. Donc il faut se garder d'avoir des partis pris. Et le danger et l'explication des affaires non élucidées, quelquefois, c'est des enquêteurs qui ont des espèces de convictions arrêtées, de partis pris, ils pensent que c'est ça forcément. Ça ne peut pas être autre chose, alors qu'il faut envisager toutes les hypothèses. Même les pires. Que même la mère éplorée qui dit « quelqu'un est venu m'enlever mon bébé, il est parti avec », c'est peut-être la mère qui a tué la gamine. L'affaire de la petite Fiona, vous vous souvenez ? Hein, c'est le couple. J'en ai connu des affaires comme ça aussi, on va dire, on va monter un scénario. Le pire est toujours possible en matière criminelle. Le pire est toujours possible. Encore une fois, on a même eu l'affaire du curé Duruf dans les années 50. Je crois que c'était dans les Vosges, un ecclésiastique qui avait mis enceinte une jeune femme et qui, de peur d'être dénoncé, il la tue, il l'éventre, il tue l'enfant. Il a été condamné à peine de mort, commué. Il l'avait dénoyé. C'est l'affaire dite du curé Duruf. Vous voyez, bon, enfin, il faut se garder d'avoir des a priori, de se dire c'est forcément tel événement. Et plus la victime est connue, ou à une certaine surface, plus on échafaudera des hypothèses multiples. Complotiste. On va dire que M. Genelliti, il était en fait rémunéré par la CIA américaine, et que c'est peut-être pour ça qu'on a voulu le faire taire, hein. Vous aurez des fantaisistes aussi, des magnétiseurs, qui vous diront « ben oui, il faut envisager toutes les pistes » et vous aurez forcément, si la personne est connue, et parce que c'est vendeur, vous aurez forcément des thèses extrêmes. Lady Di, certains croient encore qu'elle est morte sur un acte criminel. En fait, c'est un accident de la route, tout bête. Et d'ailleurs, le beau-père n'a jamais voulu admettre que ils étaient tous bourrés, plus ou moins. Type, il perd le contrôle, il se fracasse contre un pilier. Voilà. Et plus la personne est connue, on a dit ça de l'affaire Boulin et de beaucoup d'autres, Bérégovois, plus on échafaudera une thèse et on voudra nourrir une thèse criminelle. Alors que ça peut ne pas être du tout le cas. Et vous aurez beau expliquer que rien ne permet de démontrer qu'il y a une hypothèse criminelle, vous aurez toujours ceux qui vous diront « mais on cache la vérité, mais c'est pas possible ». D'où l'importance d'ailleurs de faire des actes d'enquête extrêmement complets, des autopsies, de pas du tout dire « ah ben non, on évite de faire ça parce que la personne est très connue ». Au contraire, plus la personne est connue, plus il faut faire une enquête serrée pour éviter après coup qu'on dise « ah mais on n'a pas fait ci, on aurait dû faire ça, on n'a pas… » Voilà, il faut… Donc, vous voyez, la difficulté, c'est d'essayer à un moment de combattre une espèce d'émotion collective. Et aujourd'hui, ce genre d'affaires partirait dans tous les sens. Si on tue Emmanuel Macron, alors on peut imaginer que sa femme, un jour, dans un coup, le tue. On imaginera plein d'explications. Alors évidemment, eux sont plutôt victimes d'actes terroristes, hein, ou d'actes isolés, comme le type qui avait tiré sur Jacques Chirac, vous savez, sur les Champs-Élysées. Bon, eux, ils sont à la merci. Hein, il a été agressé dans la Drôme, hein, aussi Emmanuel Macron, un type qui lui a donné une baffe. Il y a toujours cette tentation de gens un peu déséquilibrés. Hein. Et ça peut être des commandos terroristes, bien sûr, mais ça peut être aussi un acte ordinaire. Et vous savez que si le président de la République était tué en Savoie, par exemple, par un particulier, pas terroriste, hein, l'affaire serait instruite à Chambéry. Elle resterait gérée là, parce que ce n'est pas une affaire de terrorisme qui a vocation à être traitée à Paris. Et donc, et ça pourrait être d'ailleurs dans une juridiction encore plus petite. Voilà. Donc, il faut se garder de toutes ces présupposés, de ces idées, parce que c'est plus complexe qu'on imagine, toutes ces crises. Et la victime oriente, en fonction de son profil, on a déjà une idée. C'est vrai que si on trouve une dame violée dans les toilettes ici, clairement, on s'orientera sur une piste, et ce sera pas mal d'ailleurs, entre guillemets. Je mets pas mal, entre guillemets, parce que le viol, on peut espérer avoir un ADN. Mais si ce n'est pas le cas complet, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une querelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé? Alors, il y a, et je voudrais en terminer par là, puis peut-être échanger un peu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a deux situations possibles, parce qu'il y a celle qu'on imagine idéale dans les écoles de police, qu'on voit un peu dans les romans d'Agatha Christie, etc., tous les Maigret, etc. Il y a deux hypothèses, une plus simple, l'autre complexe. Une personne qui est tuée dans un lieu clos. On retrouve un cadavre dans une maison, dans un appartement, dans une cave, l'endroit où le crime a eu lieu. Ça, c'est la meilleure situation. En espérant que personne n'est venu avec ses gros souliers marcher sur la scène de crime. Parce que si le crime s'est produit là, il y a sans doute des traces. Et aujourd'hui, on a des outils pour voir s'il n'y a pas eu des micro-traces de sang. En fonction de l'emplacement des traces, ça peut donner une idée de ce qui a pu se passer. Et là, on peut préserver des indices et peut-être remonter jusqu'à l'auteur. Ça, c'est la situation presque d'école idéale qui se produit, qu'on voit à Paris, dans les grandes villes, des meurtres à domicile, des choses comme ça. Mais il y a la deuxième situation, plus embêtante et assez fréquente aussi, c'est le crime, ou plutôt la découverte du cadavre en pleine nature. On retrouve une personne au bord d'une route, dans une forêt, immergé dans l'eau, sur un sentier. Là, vous voyez que l'espace est beaucoup plus compliqué. Et le lieu où on découvre la personne morte n'est pas forcément le lieu où la personne a été tuée. Elle a pu être tuée ailleurs, et jetée, abandonnée. Donc déjà, complexité. En plus, c'est un lieu qu'on a du mal à verrouiller, à cerner. On va chercher des mégots, mais des mégots dans une forêt, vous en trouvez des millions, etc. Donc, vous avez une configuration qui déjà est beaucoup plus compliquée parce que vous ne savez pas forcément où chercher en espérant peut-être tomber sur quelque chose qui aurait abandonné le criminel. Évidemment, la situation la pire, c'est la disparition. Cécile Valin, je crois qu'il est rentré, qui marchait au bord de la route, je crois, et voilà, qui disparaît. Est-ce qu'elle est montée dans un véhicule? Quelqu'un comme la petite Lina, là, qui a disparu dans l'est de la France. On peut penser que là, quelqu'un l'a prise en charge. Et là, c'est pas simple, puisque dans mon bouquin, j'ai un chapitre, c'est « Le cadavre parle ». C'est grâce au cadavre, entre guillemets, qu'on peut remonter à l'auteur. Mais encore faut-il l'avoir, ce corps, qui peut supporter des traces d'ADN, des traces de violence, des signes qui permettent peut-être d'orienter vers un auteur. Si on n'a pas le corps, on est très mal. Et ça renvoie à toute la problématique, et j'en termine, de l'affaire Bonfanti, dont vous avez entendu parler, toujours dans la région, à Grenoble, Pontcharrat, où un crime de 86, 36 ans après, l'auteur des faits se dit « c'est bien moi », l'affaire avait été classée, et c'est une altercation, ça se passe dans la rue, ça continue chez lui, il l'étrangle, et il l'emmène dans la forêt, il jette le corps. Et on l'a cherché pendant longtemps. Et aujourd'hui, il y a un problème de prescription. Est-ce que le fait qu'on ait clôturé l'enquête permet de le poursuivre? Et la Cour de cassation a dit non, l'affaire n'est pas complètement terminée. Bon, c'est un débat technique, hein, la prescription, qui peut être un problème. Et là, on était parti sur une disparition, parce qu'on n'avait pas de corps. On n'est pas parti à l'époque sur un crime avéré. Parce que toutes les personnes qui disparaissent, encore une fois, ne sont pas victimes de crimes. Il y a des dépressifs, hein, il y a des gens voilà, qui... Et ça, d'ailleurs, c'est mal compris par les familles qui, quelquefois, préfèrent et, comment dire, soutenir la thèse du crime, parce que d'une certaine manière, psychologiquement, ça les exonère d'une forme de culpabilité. Vous savez, c'est l'idée, j'ai pas pu déceler que ma fille, mon fils était dépressif, qu'il a mis fin à ses jours, donc je veux pas admettre ça, donc il a forcément été tué. Et souvent, vous avez des proches qui, malgré quelquefois des évidences, ont du mal à accepter la thèse du suicide ou même de l'accident. Et il y a des affaires un peu ambiguës, on peut toujours imaginer que... Et aujourd'hui, ça se complexifie, parce que vous avez avec des jeunes le harcèlement scolaire, hein, est-ce qui peut pousser des jeunes à mettre fin à leur jour, le racket, des choses qui peuvent toucher... Voilà. Et donc, toutes ces situations font qu'on a une complexité sur le traitement des disparitions. Maintenant, certains dossiers sont au pôle de Nanterre, et on espère que certains vont évoluer. Après, il faudra, ils le cherchent, ils cherchent les corps des victimes. Mais vous avez vu, malgré les recherches approfondies, on n'a pas retrouvé Estelle Mouzin, qui a été tuée en 2003. Il y a eu des recherches avec des pelles, tractopelles et tout. Et c'est très compliqué, parce que même l'auteur peut avoir du mal à retrouver les lieux. Hein. La végétation change. Et voilà, donc j'ai peut-être été un peu dense. J'espère que je vous ai pas trop lassé, mais je pourrais être beaucoup plus sanglant si vous le souhaitez, ou sanguinolent. Je termine là-dessus parce que on plaisante, mais si vous êtes un jour tiré au sort pour être juré de cour d'assises, on va rien vous épargner. Hein. Quand on parlera de crime de sang, on vous montrera le cadavre, les photos du cadavre, on ne montrera pas l'autopsie, mais les photos, et c'est important de savoir de quoi on parle, hein. Comment on a tué la personne, c'est souvent terrible, hein, parce qu'il y a du sang de tous les côtés, mais c'est important, et les jurés peuvent être brutalement confrontés à des images atroces. Alors on vous prévient, mais les jurés ne peuvent pas partir. Hein. Alors ils peuvent fermer les yeux, hein. Personne ne vérifiera qu'ils ont ouvert les yeux, généralement la famille s'en va, quitte la salle d'audience, mais les jurés sont censés... Alors cela dit, j'ai constaté, en les regardant, que les femmes elles donnaient bien le coup. Hein, pas mal, finalement ça se passait plutôt bien, mais ça peut vous arriver d'être confronté vraiment à des scènes terribles par images interposées. Il y a des moments extrêmement émouvants, des fois on a enregistré les dernières paroles d'une victime, vous savez, des choses extrêmement fortes. La petite Élodie Kulik qui a été tuée dans la Somme, je crois qu'elle avait été séquestrée dans le coffre, elle avait passé un message à sa mère, je crois, et elle allait être tuée dans les minutes qui ont suivi, donc c'est des trucs terribles. Donc vous êtes confronté brutalement à l'atrocité, et on va vous demander de dire si l'accusé, il est coupable ou pas. Et l'accusé, il ressemblera à votre fils, à votre mari, à votre neveu, physiquement. Vous verrez un type ordinaire, qui n'a pas une mauvaise tête, qui n'a pas une tête d'assassin, qui n'a pas une tête de monstre. Au contraire, il y a même des types qui sont plutôt avenants. Nordal-Hollandais, c'était plutôt un beau mec. Physiquement, d'ailleurs, il a eu une trentaine de maîtresses, de copines, je n'ai jamais vu autant, qui ont défilé à la barre. Pas de problème de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, regardez bien les têtes des tueurs en série américains. Vous savez, ils ont plutôt des bonnes têtes. Ted Bundy, qui était un grand tueur en série américain, qui a été, guillotiné, électrocuté, chaise électrique. Il avait une tête de playboy. Donc, personne n'a une tête d'assassin. Et si on prenait des photos de gens avec une tête patibulaire, celui qui a la tête patibulaire, il ne sera pas là pour meurtre, il sera là peut-être pour cambriolage, escroquerie. Et celui qui a une bonne tête, c'est peut-être lui l'assassin. Et je l'ai vu beaucoup, très souvent. Donc, l'idée qu'on peut se faire, et j'en parle dans le bouquin, l'idée qu'on peut se faire du crime, elle surprend toujours lorsque vous voyez rentrer dans le box des accusés l'intéressé entre les gendarmes, les policiers, qui vous voyez un type qui vous ressemble, en fait. Monique Olivier, rien d'intéressant. Hein. Fourniret, c'est un petit bonhomme, je l'ai rencontré hein, à la prison d'Ensisheim. Bon, il avait des yeux, bien. Bon, grosse main. Mais Guy Georges, qui a tué un certain nombre de femmes, il a pris 30 kilos, il est devenu obèse. Très sympa, très souriant. C'était le meurtrier de jeunes filles à Paris. Le tueur de l'Est parisien. Tous ces gens-là, voilà. Et c'est toujours difficile de se remettre, d'imaginer ces gars-là au moment de leur acte, et quelquefois des victimes survivantes le racontent, certaines qui ont échappé, ils disent « le regard change ». Et ça, il n'y a que les victimes qui peuvent le dire, celles qui ont survécu. On l'a dit pour Norda Lelandais, qui a eu des moments, des disputes avec certaines de ses copines. Et moi, j'ai souvent entendu dire, même de la part d'un type qui a les yeux bleus, son regard devient noir. Et je pense que Fourniret, lorsqu'il étranglait des gamines après les avoir violées, son regard devait changer. Et ça, vous ne le retrouverez pas dans le box. Vous verrez un type banal, qui a même des yeux ordinaires. Et on a du mal à les remettre dans une situation qu'ont vécu les victimes, peut-être des années avant, où la mort allait venir. Quoi. Et certains jouissaient, comme Fourniret, de cette faculté qu'il avait d'ôter la vie à une victime extrêmement vulnérable. Je suis désolé de terminer là-dessus, mais je pense que si vous avez des questions, des critiques, des observations et des plaintes, n'hésitez pas. Oui, alors les scellés, normalement au bout de 6 mois, on pourrait les détruire ou les restituer éventuellement.